aussi loin que lui, parce que lui, il dit qu'il a gagné les élections. Eux, ils disent, écoutez, il faut laisser le processus se dérouler tranquillement, laisser la possibilité à Trump d'engager les procédures judiciaires contre les résultats pour un recompte dans certains États et autres, et tranquillement, les choses vont se faire normalement. Je suis un peu de l'avis je pense plutôt que effectivement, les Républicains veulent simplement donner un peu de temps à Donald Trump, parce qu'il y a une grande question politique, c'est quel va être l'avenir du Parti républicain. Et de toute évidence, avec plus de 71 millions de voix, Donald Trump va certainement peser très 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 lourd. Donc je crois que les Républicains jouent une carte, c'est une tactique politique, mais en dernier ressort, tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Du côté de Joe Biden, comme vous l'avez dit, la transition est engagée.
Claude Porcella, généralement, comment se déroule la transition entre deux administrations aux États-Unis?
Eh bien, écoutez, tout dépend d'un service qui s'occupe de l'administration générale, des bâtiments, du matériel, des différents ministères et des différents départements. Donc, ce service, une fois que le président, un nouveau président a été élu, en attendant qu'il prenne officiellement ses fonctions, lui donne un certain nombre de moyens pour qu'il puisse mettre en place son gouvernement. Par exemple, il dispose, ou il devrait disposer de quelque chose comme 64 millions, parce que tout cela demande des moyens, ministère de l'équipe de transition, et également refuse aussi les moyens. Et ça, c'est une chose que l'on n'a pas vue et qui sort un peu de l'ordinaire.
Oui, justement, parlons de ces services généraux de l'administration fédérale, ou General Services Administration, GSA. D'après une porte-parole de Emily Murphy, c'est elle la chef de la GSA, celle-ci n'a pas encore déterminé qu'il y avait un clair vainqueur. Denis Bive, que signifie une telle position?
On est vraiment dans la boue pour l'instant, puisque il n'y a pas de date, il n'y a pas de limite où il faut qu'elle agisse. Et donc, c'est difficile, même un peu dangereux, puisque si elle dit non, Biden n'a pas encore réussi, on n'a jamais vu ça avant dans notre histoire. Dans notre histoire, ça fait 200 ans. Et alors, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Les tribunaux, un juge va dire, écoutez, il faut agir, une injonction, c'est vraiment flou, on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est un moment, à mon avis, très difficile pour le pays.
Joe Biden annonce ses priorités, le combat contre la pandémie du coronavirus, la reconstruction économique, la justice raciale, la lutte contre le réchauffement climatique et la réconciliation d'une Amérique divisée. René Lake, est-ce que ce sont bien là des défis que le pays attend de voir relever au plus vite?
Oui, écoutez, ce sont les 4-5 principales grandes questions qui se posent au pays, bien entendu, dans le cadre de la gestion de la pandémie, le rapport gestion de la pandémie, relance économique, il y a un lien, il y a notamment ce lien d'une sorte de package qui puisse permettre une relance de l'économie en situation de la pandémie. Bon, ça, il semblerait qu'il pourrait même, les démocrates et les républicains pourraient même trouver un accord avant même que Joe Biden arrive aux affaires le 20 janvier 2021. Il est tout à fait possible que dans le courant du mois de décembre, McConnell et Nancy Pelosi puissent trouver un accord avec la Maison Blanche pour un package qui tournerait peut-être autour de 1,5 trillion, 1,7 trillion. C'était ça un peu le consensus dans les dernières conversations il y a à peu près un mois. Donc il faudrait s'attendre à cela. Alors ça, c'est le lien direct entre la pandémie et la relance économique. Parce que comme le dit Biden rapidement, il faut contrôler le virus pour pouvoir relancer la machine économique.
Mais durant la campagne, Donald Trump a beaucoup parlé de réussite économique du pays. Ses partisans sont d'avis qu'il y a eu des succès, notamment sur le front de l'emploi, mais admettent que les bons résultats ont été balayés par la pandémie de Covid-19. Qu'en pensez-vous, René, rapidement?
Oui, écoutez, bon, ça dépend de l'indicateur. On en a souvent parlé de ça durant les 3-4 dernières années. Ça dépend de l'indicateur qu'on en utilise, Jacques. Si l'indicateur, c'est effectivement le Dow Jones, donc les marchés boursiers, il n'y a pas de doute. Je vous rappelle qu'en février 2020, le Dow Jones est monté à 29 500 points. Il n'a jamais atteint, c'est un record historique. Je vous signale entre parenthèses qu'il y a deux jours, quand Pfizer a sorti son info sur les 90% d'efficacité de son vaccin, le Dow Jones est monté à 29 600, même un peu au-dessus de cela, mais finalement il a clôturé en baisse, quoi, 29 100, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est vrai que si on prend la bourse comme indicateur, on peut comprendre la thèse de Donald Trump. Mais bien entendu, les démocrates de leur côté, Joe Biden, mais aussi le reste du leadership démocrate, considèrent que ce n'est pas ça le facteur premier, que le capital marche bien, les milliardaires s'en sortent bien, mais ça n'y a pas de retombée directe au niveau de la classe moyenne américaine.
Denis Biv, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités, tout en soulignant que cette autorisation n'indiquait pas que son département avait des preuves de fraude. Les allégations d'irrégularités, si elles étaient avérées, pourraient-elles potentiellement avoir un impact sur le résultat d'une élection fédérale dans un État ?
Je crois pas, puisqu'il, même s'il gagne ses États, ses voies électorales, Biden a tellement, qu'à mon avis, Trump peut pas gagner. Et c'est ça qui nous écœure, puisque ces allégations, ils ont intenté des actions à faire classer une après l'autre dans plusieurs États. Ils sont vraiment désespérés, c'est dramatique, et à mon avis c'est dangereux, hein. J'ai voté pour Trump deux fois, hein, mais maintenant je commence à en avoir des doutes, puisque c'est comme dans un pays autoritaire, c'est dangereux de ne pas accepter cette élection.
Denis Habib, est-ce le vote postal qui demeure la pomme de discorde?
Ça varie selon les États. Dans certains États, ça a très bien marché. Dans d'autres, non. Ils ont constaté qu'il y avait des problèmes. Pas forcément fraude, mais ils n'ont pas compté tous les voix. Cette élection avait beaucoup de problèmes partout dans le pays, mais quand même, Biden a gagné correctement, à mon avis.
Et maintenant, deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Tom Zakis, Goma, RD Congo. La démocratie américaine en sort un peu affaiblie à l'intérieur comme à l'extérieur. Les dirigeants africains pointeront les élections américaines de 2020 en arguant que les États-Unis ont tous les moyens pour organiser des élections crédibles, mais elles ont été contestées elles aussi. Donc la contestation des élections deviendra un acte banal, sans impact, surtout qu'actuellement, de plus en plus, les présidents africains sont moins démocrates. Et Moïse Conan, je n'ai rien contre Joe Biden, mais il n'est pas encore président. Est-ce que ce sont les médias qui proclament les vainqueurs des élections aux États-Unis? Vous serez surpris et je pense que ça sera fort désagréable. Chers amis fidèles de la VOA, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum après cette courte pause. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum que vous propose VOA Afrique. Gros plan sur les élections américaines. Avant de continuer la discussion avec nos invités, je vous propose quelques réactions en République démocratique du Congo. C'est un micro-trottoir réalisé par Patrick Abega à Kinshasa.
Normalement, aux États-Unis, un président qui a déjà fait un mandat, il parvient à renouveler le mandat. Mais pour Trump, il s'est arrêté au premier mandat, ce qui n'est pas presque normal. Hein. Bon, quand a contesté les résultats, bon, j'ai pris que, comme on a déjà proclamé Joe Biden vainqueur, ça, maintenant, c'est une procédure de la justice. Hein.
Monsieur Trump a excellé dans des réclamations. Il n'a pas bien maîtrisé le COVID, la maladie universelle et le COVID-19. C'est alors que, et d'autres comportements qui s'en passent, c'est alors qu'il a été monté dehors. Il respecte seulement la volonté des urnes, mais par rapport à la politique congolaise ou africaine en général, nous disons que si on n'attend rien des Américains. Les Américains ne visent que leurs intérêts.
Franchement, personnellement, moi, je ne m'attendais pas à voir Donald Trump se comporter de cette façon. C'est une réalité. Nous sommes habitués à voir ce genre de comportement, ce genre de réaction. Permettait peut-être en Afrique, mais personnellement, c'était une surprise de voir Donald Trump se comporter comme ça, étant donné qu'il a été président des États-Unis d'Amérique.
Et nous retrouvons nos invités de Bakersfield dans l'État américain de Californie, l'avocat Denis Bive dans l'État du Maryland, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et le journaliste René Lake se trouve lui dans la capitale américaine. René Lake, une administration Biden va-t-elle signifier une nouvelle politique américaine pour l'Afrique et quelle devra être cette politique d'après vous?
Oui, écoutez, pour l'Afrique, pour le reste du monde, en fait, la politique, pour simplifier, j'aime pas trop les catégorisations pour ma part, mais pour simplifier, la politique de Donald Trump, c'est une politique nationaliste, America First, c'était assumé, c'était proclamé. Bon, c'est sûr que ça sera du passé et que l'Amérique va réapparaître sur la scène internationale comme elle a été toutes les années qui ont précédé l'arrivée de Donald Trump. Donc, je crois qu'un réchauffement des relations avec les alliés, notamment les alliés européens, retour immédiat, ça fait partie des priorités de Biden, retour immédiat dans l'accord de Paris sur le changement climatique, également. Réintégration, renouvellement ou relance des accords avec des accords antinucléaires avec les Iraniens et bien entendu pour l'Afrique, je pense qu'on va aller à un niveau d'échanges commerciaux beaucoup plus important. Je vous signale que dans les années 2010-2011, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique tournaient autour de 110 milliards de dollars annuels, avec donc c'était à l'époque d'Obama. Sous Trump, c'est descendu à 56 milliards en 2019, donc littéralement la moitié. Je pense qu'on va retrouver avec Biden une sorte de troisième mandat de Barack Obama.
Les détracteurs de Joe Biden affirment que ce sont des pays tels que la Chine et l'Iran qu'ils considèrent comme des bad actors, de mauvais joueurs sur l'échiquier international, qui vont se réjouir d'une administration Biden. Claude Porcella, que faut-il exactement comprendre par ces critiques?
Oui, c'est assez intéressant de voir qui a félicité Biden. Vous avez les alliés traditionnels, Macron, Merkel, Johnson, Trudeau. Tous ont immédiatement envoyé leurs félicitations à Joe Biden. Qui n'a pas répondu? La Russie, toujours rien. La Chine, toujours rien. Le Brésil, toujours rien. Dans le cas de ces trois pays, l'Iran également. L'Iran a tout de même exprimé l'espoir qu'avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, il serait possible de relancer l'accord nucléaire, et ça fait partie de ses projets. Mais certainement, les Iraniens voient d'un meilleur œil le changement de pouvoir à la Maison-Blanche. En ce qui concerne la Chine, oui et non, parce que finalement, ils n'ont pas pris position, mais il y a eu des efforts certains de la part de la Chine pour influencer les électeurs par les médias sociaux. Donc, eux aussi, probablement, préfèrent Joe Biden à Donald Trump. Sur le plan commercial, c'est le grand point d'interrogation. C'est évident que la Chine s'achemine de plus en plus vers la situation de devenir la première puissance mondiale. Donc, même sous Biden, même s'il tendra à améliorer les relations avec la Chine, elles resteront tout de même tendues, ça c'est certain. Donc, d'une façon générale, comme le disait René, on va certainement retourner à une situation plus traditionnelle, à un rôle traditionnel de l'Amérique en matière de leadership. Et l'Amérique, je l'ai souvent dit, reste tout de même une nation essentielle pour la paix du monde.
En tout cas, le reste du globe semble déjà passer à la suite. Les Occidentaux, vous le disiez Claude, ont félicité Joe Biden, se disant prêts à travailler avec les États-Unis pour affronter les grands défis de la planète, même Israël et l'Arabie Saoudite, dont les dirigeants sont proches de Donald Trump, ont salué l'élection du démocrate. Denis Habib, comment entrevoyez-vous les rapports des États-Unis sur le plan international dans les années à venir?
Je pense que le printemps est de retour, qu'on va voir des relations vraiment fantastiques avec le monde entier, avec Trump, malheureusement, America First, comme on dit. Trump, il a abîmé beaucoup de relations. Et maintenant, on va voir avec Biden une atmosphère beaucoup plus relaxe, beaucoup plus amicale. Et on va voir un moment, à mon avis, vraiment terrible, vraiment fantastique. L'Amérique de retour dans le bon sens. C'est ce que beaucoup de gens pensent, et moi aussi.
Et maintenant, deux autres commentaires à Facebook. Achille Kinoum Kotonou Bénin, Trump a pleinement raison, les lois américaines le permettent. Ce qui est surprenant, c'est le taux de vote par anticipation, par correspondance. Il doit exploiter toutes les pistes de la loi. Et John Kippa, je soutenais Trump en parlant de fraude électorale. Trump déshonore les États-Unis. L'Amérique n'est pas divisée. Soutenir un candidat n'est pas une division, il y aura un seul président et une seule administration. Quel rôle pour Kamala Harris auprès de Joe Biden, René Lake?
Écoutez, ça risque d'être un rôle extrêmement important qui va au-delà du rôle traditionnel d'un vice-président pour au moins deux raisons. D'abord, son profil, hein, première femme dans l'histoire américaine à occuper un tel poste. Passons sur le fait que ce soit une noire, passons sur le fait qu'elle soit également asiatique, et passons sur le fait qu'elle a toujours été extrêmement dynamique, non seulement sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain de la lutte pour les droits civils et autres. Donc de ce point de vue, de par son profil, elle a une situation particulière. Mais ce qui est le plus intéressant de mon point de vue avec Kamala Harris, c'est que c'est aussi l'une des premières fois qu'un vice-président arrive en devenant de facto le leader du parti en question. Et ici, c'est le parti démocrate. Il est évident que dès lors qu'elle est la vice-présidente, considérant l'âge de Biden, considérant la possibilité qu'il ne se présente même pas pour un deuxième mandat, de facto, elle devient la leader du parti démocrate, et de facto, elle est en pole position pour être la prochaine candidate des démocrates à la présidentielle. Donc, toutes ces deux situations qui ne vont pas être faciles à gérer de mon point de vue, lui donnent un statut particulier qui fait que je crois que Joe Biden lui confiera des missions très précises pour pouvoir élever sa stature nationale dans le pays.
Pour ce qui est du vote au niveau national, les derniers chiffres indiquent que Joe Biden a recueilli plus de 76 millions de voix et Donald Trump plus de 71 millions, ce qui fait dire à de nombreux Américains que leur pays est plus divisé que jamais, un pays carrément coupé en deux. Il y a certains Américains qui ont même commencé à parler des États d'Amérique sans le mot « uni ». Cette même question que je voudrais poser à vous tous les trois. Tout d'abord, tout bord politique confondu, républicain, démocrate ou autre, ce pays va-t-il pouvoir se réconcilier et comment? Je commence par vous, René Lick.
Écoutez, réconciliation, tout dépend de ce qu'on appelle réconciliation. Réconciliation autour des institutions américaines. Personnellement, je suis tout à fait optimiste. Il n'y a rien qui ne se passe qui ne me fasse m'inquiéter outre mesure. La situation est tendue, elle n'est pas préférable. On n'a même pas eu le temps de parler, Jacques, des changements intervenus très récemment au niveau du Pentagone, du ministère de la Défense, qui peuvent inquiéter. Je vois que beaucoup d'analystes sont assez tendus et inquiets, je peux le comprendre. Mais je pense que globalement, c'est un jeu politique, mais qu'en dernier ressort, le leadership républicain va jouer le jeu et je n'ai aucun doute sur ça. Donc je crois qu'on peut être tout à fait optimiste et que, bon, il y aura un consensus sur les institutions. Maintenant, d'un point de vue des positions politiques, sur les questions de l'identité, sur les questions de la menace existentielle liée au changement démocratique aux États-Unis, etc., ça c'est très très profond, ça c'est des siècles d'histoire, ça ne met pas du temps, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est le cas ici aux États-Unis, mais c'est le cas ailleurs en Europe, en Afrique et même en Asie.
Claude Porcella, votre avis?
Oui, il y a des optimistes qui disent avec Joe Biden qui a un tempérament qui le porte à faire des compromis et il l'a prouvé tout au long de ses 36 années à passer au Sénat et aussi grâce à ses bonnes relations avec le président du Sénat, Mitch McConnell, il y a des chances que finalement on parvienne à ce compromis. Je suis d'accord avec René, les institutions américaines survivront. Il y a aussi des sceptiques qui disent oui, c'est très bien, Biden dit les choses qu'il faut dire, mais finalement la division au sein des Américains est si profonde que cela va prendre énormément de temps et il n'est pas certain qu'en 4 ans Joe Biden puisse ramener le calme et réconcilier deux groupes qui semblent vraiment refuser la coopération, cette coopération sur laquelle insiste tant le président élu.
Et on termine avec vous, Denis Bive. Qu'en pensez-vous?
Écoute, je suis américain toute ma vie en Californie, en Amérique. Je suis très fier d'être américain. J'ai beaucoup de confiance dans notre système, notre démocratie fonctionne, ça marche. On a survécu à un tas de trucs. Regarde notre guerre civile, par exemple. On est toujours là. Et on sera là demain.
Et voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités, les journalistes René Lick et Claude Porcella et l'avocat Denis Bive. Merci à nos radios et télépartenaires en Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care. Merci.